Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Le 25 avril 1974 au Portugal, la révolution des œillets ne renverse pas. Proprement parlé, Salazar, il est mort 4 ans plus tôt. Pour saisir le sens d'une révolution, il est impératif de comprendre ce à quoi elle s'oppose. La révolution des œillets renverse tout ce que Salazar a construit, imaginé, porté. Une dictature d'un type particulier, difficile à cerner, comme le personnage lui-même, nimbé de mystère. Antonio de Oliveira Salazar, né en 1889, mort en 1970 à l'âge de 81 ans. Homme politique portugais, gare à Salazar, itinéraire d'un dictateur.
À Lisbonne, une foule se pressait sous le balcon de la résidence présidentielle pour acclamer le Premier ministre Salazar à l'occasion du 25e anniversaire de sa prise de pouvoir. 450 officiers de la Légion portugaise défilaient ensuite à la tête des diverses associations venues clamer leur fidélité au plus populaire des dictateurs.
Nous étions en 1953 dans le journal des actualités françaises. Bonjour Yves Léonard.
Bonjour.
La plus grande popularité d'un dictateur, 1953, le journal des actualités françaises. Un dictateur populaire, Salazar ?
À une certaine manière, il l'a été. Oui, il l'a été dans son pays déjà, parce que dans les années 1930, 1940, c'est un homme qui bénéficie d'une certaine aura, d'un prestige. C'est un universitaire, quelqu'un qui inspire une forme de respect, de la sagesse. Et puis c'est un homme surtout qui inspire la peur, parce que il est entouré d'une police politique, de gens qui veillent un petit peu à ce qu'on ne puisse pas dire tout et n'importe quoi le concernant. Donc c'est quelque chose de très contrôlé, avec une propagande. Et puis c'est un homme aussi qui bénéficie d'un certain prestige à l'étranger, où beaucoup d'admirateurs, notamment en France, louent les mérites de ce personnage atypique qui, disent-ils, a su restaurer la grandeur du Portugal, de la puissance de l'État, de faire du Portugal quelque chose de respecté sur la scène internationale. Et puis c'est un dictateur qui tranche aussi par sa personnalité, parce que il parle, il s'exprime toujours avec des mots choisis, il ne vocifère pas, il ne sait pas haranguer les foules, d'ailleurs il est assez mauvais en public. Par contre, il prépare des textes soigneusement écrits, qui sont faits d'ailleurs pour être lus plutôt que pour être dits. Et c'est cet homme-là qui va, pendant des années et des années, avec le soutien de la police politique, avec le soutien des militaires, et bien gouverner le Portugal. Et en 1953, lorsque cet extrait est pris en compte, eh bien, il est un personnage très apprécié sur la scène internationale. Il est membre, le Portugal est membre fondateur de l'Alliance Atlantique. Il est courtisé par les puissances occidentales.
Ouais, c'est un homme complexe, hein, et c'est pour ça que comprendre Salazar et sa politique, le salazarisme, je reprends un mot que vous utilisez dans votre biographie consacrée à Salazar, Yves Léonard, avec ce sous-titre, le dictateur énigmatique. Et même dès les premiers mots, hein, il y a le mot mystère qui apparaît. Personnage complexe, mais à l'image du pouvoir qu'il met en place. Ce n'est pas comparable, et vous avez dit ces grands dictateurs, mais c'est vrai qu'on pense à ceux du XXe siècle. Il y a évidemment Hitler, mais il y a Mussolini, il y a Franco. Pas du tout un dictateur de cette trempe-là, avec cette image-là.
Oui, il est très différent, parce que d'abord, à la différence de tous les hommes qu'on vient de citer, il n'a jamais porté une uniforme et il n'a pas fait la guerre. C'est pas du tout un homme à cheval, comme on dit à l'époque, c'est pas quelqu'un qui incarne ce pouvoir, on va dire, charismatique, lié au passage par l'épreuve du front, l'épreuve du feu, et lui, il ne l'a pas connu. Donc il joue sur d'autres registres. C'est un homme qui s'est construit dans une culture universitaire de la connaissance, une culture profondément catholique, et qui manie des mots choisis et qui a du mal avec les moyens de communication de l'époque moderne. La radio, par exemple, il n'arrivera pas vraiment à l'apprivoiser. Je ne parle même pas plus tard de la télévision. C'est un homme de l'écrit, c'est un homme du face-à-face, du tête-à-tête, de l'entretien individuel. Quand il doit s'exprimer en public, et au moment dans le champ magnétique des fascismes, comme on dit à l'époque, eh bien, ça pose un vrai problème. C'est un homme très atypique dans son comportement, et y compris aussi dans sa conquête du pouvoir, comment il est arrivé au pouvoir. C'est extrêmement complexe, et c'est un homme qui manie des registres qui ne sont pas si habituels, et qui lui confère à la fois une dimension assez anachronique, assez datée, et en même temps très moderne.
Et oui, parce qu'il y a ce mélange-là chez Salazar avec une erreur qu'il ne faudrait pas commettre. Cette erreur, ce serait de penser que cet intellectuel, ce professeur, est issu d'un milieu d'intellectuels. Et là aussi, dans son destin, je l'ai dit, il est né en 1889. Dans son destin, il y a cette première période. Il vient de quel milieu social ?
C'est un milieu modeste. Alors, la propagande et lui-même, par la suite, diront qu'il est né pauvre, il doit à la Providence d'être né pauvre, c'est une chance, dit-il. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin, ses parents, son père, est un régisseur de grandes propriétés terriens dans une région intérieure du Portugal, assez à l'écart de tout, les Beira, où il est né en 1889. Son père s'en sort, se débrouille, c'est un homme assez habile, il est régisseur, et puis après, il fait un peu de, on va dire, de promotion immobilière dans le secteur, parce qu'il y a la ligne de chemin de fer, une station qui s'est installée. Donc, ça génère un petit peu de mouvement, il y a quelques personnes qui passent. Et c'est surtout sa mère qui va beaucoup compter dans son parcours personnel, parce que sa mère l'apprécie beaucoup, elle chérit ce fils, le dernier de la fratrie, parce qu'il a 4 sœurs aînées, et c'est le petit dernier. Et lui, il manifeste, il témoigne assez vite de qualité intellectuelle, un potentiel, on va dire. Et il va pouvoir faire des études, comme la plupart de ses sœurs aussi, qui ont fait des études. Une d'entre elles, d'ailleurs, deviendra institutrice. Et c'est ce parcours-là, très atypique, à l'époque, au Portugal, une grande partie de la population, on dit près de 3/4 de la population, c'est l'illettrisme qui sévit. Les gens ne savent ni lire, ni écrire. Et lui, comme ses sœurs, eh bien, ont ses rudiments pour connaître un petit peu la lecture, etc. Et puis, comme il manifeste des qualités assez fortes, eh bien, comme il dit, les bons pères de l'Église vont le repérer. Et là, il va commencer un parcours qu'on pourrait qualifier, oui, de méritocratique, parce que il n'a pas sa culture familiale, évidemment, ne le prédestine pas à occuper des fonctions éminentes. C'est une société très hiérarchisée, la société portugaise de l'époque, une société à caste, et lui ne fait pas partie, j'en dirais, de la caste supérieure. Par contre, il a des qualités intellectuelles qui vont lui permettre, eh bien, de commencer cette ascension sociale.
Vu que nous parlons de la famille Yves Léonard, quelque chose d'intéressant sur le choix du nom lui-même, hein, parce que c'est Antonio de Oliveira Salazar. Oliveira, c'est son père, Salazar, c'est sa mère.
Oui, normalement, dans le cadre habituel, il aurait dû s'appeler, passer à la postérité, sous le nom de Antonio Salazar de Oliveira. Et puis, il y a une permutation qu'on s'explique assez mal, mais qu'on repère assez tôt, lorsqu'il passe, on va dire, le brevet d'études, ou un peu l'équivalent, on voit son nom apparaître sous le patronyme de sa mère, Salazar. Ce qui correspond assez bien, ça traduit véritablement sa fascination, son admiration pour sa mère. C'est elle qui compte dans le ménage Oliveira, hein, le ménage de ses parents. Et c'est vrai que cette personne va beaucoup compter. Et puis Salazar, ça claque bien, ça sonne bien.
Oui, c'est vrai, hein, parce qu'il y a toujours cette idée ici, dans ce champ que nous explorons, celui des dictatures du XXe siècle, de la communication avec ce choix fait par Salazar d'une certaine forme d'effacement. La question que je me posais, il grandit très bien, il fait des études, c'est Coimbra, son université. Quelle université, Coimbra ?
C'est à la fois à l'époque, quand il rentre à l'université, c'est le 6 octobre 1910, le lendemain de la proclamation de la République. Et c'est la seule université que compte le Portugal à l'époque. Elle est très prestigieuse, mais elle est très élitiste. Elle compte un nombre restreint d'étudiants, que ce soit à la faculté de médecine ou à la faculté de droit ou à la faculté de lettres. Lui, il va s'inscrire d'abord, il hésite, la faculté de lettres, puis c'est la faculté de droit. Et c'est là qu'il va faire ce parcours. Mais effectivement, c'est un peu une anomalie. D'ailleurs, il y rentre assez tard. Hein. Il a, en 1910, il a 21 ans. Donc, il va rattraper le retard. Il a fait, après son baccalauréat, l'équivalent, il a été un peu préfet des études dans un collège privé et à Viseu. Donc, pas très loin non plus. Hein. C'est toujours cette région. Et il s'est posé la question de la suite. Il a pu imaginer ses parents, sa mère notamment, à un moment, a imaginé qu'il pourrait devenir, embrasser une carrière ecclésiastique. On voyait en lui un évêque, un futur évêque. Et puis, il a fait un choix différent et est rentré donc à l'université avec beaucoup d'ambition. C'est un homme très très ambitieux qui masque ses ambitions, mais qui les a profondément chevillées au corps. Et puis Coimbra, en 1910, c'est le creuset des élites portugaises. Et il sait que s'il réussit ce parcours, et il se donne tous les moyens pour le réussir, eh bien, beaucoup l'horizon se dégage pour lui.
Yves Léonard, vous avez répondu en partie à ma question en me disant qu'en 1910, c'est la République. Je vous demandais dans quel univers politique il évolue. Vous êtes historien, enseignant à Sciences Politiques Paris. Sciences Po Paris, bien sûr, mais ici, avec Salazar, c'est ce Portugal du début du XXe siècle, avec la rupture 1910, la République proclamée. Quel type de République ? Parce que dire République, c'est pas tout dire.
Alors, c'est une République qui est établie donc le 5 octobre, proclamée le 5 octobre 1910, 1936, avec un fond au départ, une source d'inspiration, le modèle républicain français est très très influent. C'est-à-dire que on s'est séparé de la monarchie, on a renversé la monarchie pour promouvoir un écosystème mais qui va se révéler assez finalement déséquilibré, un écosystème urbain, beaucoup plus que rural, et le Portugal de l'époque est un pays rural et pas urbain, donc c'est surtout le républicanisme de Lisbonne et de Porto, et un peu de Coimbra, mais surtout Lisbonne et Porto, les deux grandes villes qui donnent le ton. Et puis c'est un républicanisme à tonalité parlementaire, comme l'est la Troisième République en France, et surtout inspiré par un anticléricalisme assez prononcé, à tel point qu'en avril 1911, il y a un décret-loi qui est promulgué pour mettre en place la séparation de l'Église et de l'État. Et ça, c'est une volonté très forte des leaders républicains pour briser un peu l'hégémonie, la mainmise justement des milieux catholiques sur à la fois l'éducation et cette espèce de connivence, on appelle ça le caciquisme, ce règne des notables locaux, qui ont partie liée avec les élus, les représentants officiels, et puis cette Église catholique qui est un peu partout. Et là, les républicains, en 1911, vont engager un combat que finalement ils vont perdre, parce que Salazar est un produit, un homme du centre catholique, autrement dit de ces hommes, ces personnalités qui ont toléré la République à condition, c'est un ralliement timide on va dire, à condition qu'elle cesse de pourchasser les congrégations et de vouloir incarner une sorte de laïcité un peu à la portugaise. Et ça, Salazar va s'inscrire très vite dans ce mouvement parce que quand il est étudiant à Coimbra, il milite, et il milite où ? Au sein du Centre d'Action Catholique, enfin de la démocratie chrétienne, mais comme il dit, pas la démocratie qui l'intéressait, mais ce centre très militant qui est là pour contrecarrer les ambitions de la République. Donc il n'est pas un farouche républicain, on va dire, et encore moins un démocrate. Mais de la République, il retient un cadre dès lors que celui-ci n'est pas attentatoire ou ne pose pas problème trop fortement à l'Église catholique, dont il est un pur produit et le grand espoir à la fin des années 1910, au début des années 1920.
Comment il bascule en politique ? C'est à ce moment-là, c'est à l'université, donc dans ce que vous venez d'expliquer, dans des mouvements de contestation d'une politique anticléricale républicaine. Voilà, c'est pas juste le militantisme qui conduit à prendre des responsabilités. Il y a du talent aussi chez cet homme-là.
Il y a du talent et surtout aussi, il a beaucoup lu. C'est un homme qui s'est imprégné de beaucoup, beaucoup de lectures pour rattraper peut-être ses retards, justement, et se mettre au diapason d'une société à laquelle sa naissance ne lui permettait pas d'accéder. Il a énormément lu. Et parmi les lectures, il a lu toute la pensée, tous les auteurs catholiques. Il a lu énormément de choses. Donc, il est pétri de cette culture. Et puis, il a quand même fait ses études au séminaire. Donc, il a les bases. Il connaît tous les fondamentaux qu'il a complétés par des lectures, on va dire, savantes, universitaires. Et puis, il a à ses côtés, à Coimbra, il fait la connaissance très vite d'un homme qui va beaucoup compter par la suite, qui est son condisciple à l'université. Ils font leurs études ensemble. Ils vont y enseigner ensemble. Et ils vont vivre dans la même république, c'est-à-dire cet endroit, une sorte de colocation, on dirait aujourd'hui en termes modernes, qu'ils vont partager avec le futur cardinal primat de Portugal, le cardinal Cerejeira, qui est un ami des années 1910 et qui tous les deux militent très fortement au sein de ce centre d'action catholique et qui se montre très critique, notamment Cerejeira, à l'encontre de la République parlementaire.
On voit tout doucement se dresser le portrait de ce personnage comme une mosaïque que vous nous dressez, Yves Léonard, avec ce catholicisme, avec ses origines populaires ou en tout cas fantasmées populaires, et puis peu à peu, ses études qui ne sont pas censés le conduire au militantisme. Il est dans quoi, le droit plutôt ?
Alors, il est entré, au début, il était tenté par les lettres, mais il s'est tout de suite rallié à la faculté de droit. La faculté de droit qui est véritablement un vivier de recrutement des élites de l'époque, elle va le rester d'ailleurs. Et en droit, il va se spécialiser petit à petit, une fois qu'il a passé la licence, l'équivalent de la licence, qu'il obtient avec des notes faramineuses, parce que c'est ça aussi. Il a toujours des 18, 19, enfin des notes d'excellence. Et il va faire un peu une spécialisation, une fois obtenu sa licence, en direction de l'économie politique, de la comptabilité publique, bref, les finances, pour pas mal de raisons, et notamment aussi parce qu'il y a un potentiel de recrutement dans ce secteur. Il lui faut trouver un poste, et ce poste, il va s'offrir à lui en 1916, lorsque le titulaire de la chaire d'enseignement de l'économie politique, on va dire, décède.
Et vous êtes Yves Léonard, le biographe de Salazar, aux éditions Perrin. Vous êtes aussi l'auteur d'une histoire de la nation portugaise. En 1926, il y a un coup d'État au Portugal. Est-ce que ceux qui portent ce coup d'État sont les mêmes que peuvent fréquenter Salazar ?
Alors, ce sont ceux qui font le coup d'État, essentiellement, l'ossature, ce sont des militaires. Or, Salazar n'est pas un militaire. Salazar, il aurait pu, mais il s'est fait exempter. Il a fait un pas de côté, on va dire, élégamment. Dans les années 1917-1918, il y a la guerre. Hein. Le Portugal participe à la Grande Guerre. Il y a un corps expéditionnaire dans les colonies, mais un corps expéditionnaire qui est envoyé dans les Flandres. Et Salazar, sécurise, on va dire, son parcours universitaire, sa promotion au grade de professeur assistant, puis bientôt professeur universitaire. Donc, les militaires, ils les regardent toujours avec un peu de distance et de méfiance. Parce qu'ils considèrent, non sans raison, que les militaires sont tout juste bons à faire des coups d'État de caserne. Et c'est le prétorianisme classique en péninsule ibérique, où les militaires s'occupent de politique, interviennent sur la scène politique. Ils l'ont fait au XIXe siècle au Portugal. Donc Salazar a toujours un peu une distance. Il a une haute conscience de ses qualités intellectuelles et universitaires. Et il regarde toujours les militaires avec une certaine condescendance. Mais les militaires, en 1926... par lassitude de la République parlementaire, par ressentiment à l'égard de celle-ci, parce qu'ils ont en travers de la gorge la Grande Guerre, la participation à la Grande Guerre. Le corps expéditionnaire s'est senti un peu abandonné par la République, même s'il y avait un dictateur à l'époque à Lisbonne en 1918, mais ils ont une nostalgie de l'ordre que eux peuvent incarner. Donc il faut rétablir l'ordre, ils vont dire, il faut nettoyer les écuries d'Augia. C'est eux qui font le coup d'État du 28 mai 1926, mais très vite, il se rapproche, il sollicite Salazar. Parce que Salazar, il a déjà cette image du technicien des finances. Quelqu'un qui a une légitimité, une expertise. On ne parle pas encore véritablement de technocratie, mais c'est un homme qui a une expertise dans son domaine, qui est l'économie politique. Des choses relativement simples, mais c'est cette expertise. Ils vont l'approcher, il vient à Lisbonne, il va être ministre des finances 5 jours, et puis il retourne enseigner à Coimbra. Pour pas mal de raisons. La principale, certainement la plus forte, c'est qu'il considère que le moment n'est pas mûr et que ses militaires, justement, lui donnent l'impression, le sentiment d'être quand même des amateurs et pas très très organisés. Et puis l'autre raison, on l'a évoqué, c'est son amour démesuré pour sa mère. Sa mère est très souffrante, elle va décéder en novembre 1926 et une des raisons qui le conduit à revenir à Coimbra, qui est beaucoup plus proche de son village natal, eh bien, c'est aussi d'être aux côtés de sa mère et au moment où elle va disparaître. Mais donc c'est un homme qui regarde attentivement ce que font les militaires. Il sait qu'il n'en fait pas partie. Et c'est l'un des enjeux forts, d'ailleurs, de sa progression, on va dire, de sa conquête du pouvoir. Séduire les militaires. Faire en sorte de les convaincre qu'il est l'homme de la situation et qu'en aucun cas, ils ne peuvent se débarrasser de lui et se priver de ses compétences.
Il doit attendre un petit peu avant d'être appelé de nouveau, un petit peu ces 2 ans. En 1928, il est appelé pour être ministre des Finances. Là, ça ne dure pas 5 jours. Hein.
Et non, là, ça ne dure pas 5 jours. C'est un général, le chef de l'État de l'époque, le général Carmona, qui va le faire chercher à Coimbra. Alors là, il y a une scène où il hésite, enfin, c'est la nuit, etc. Il y a un prêtre à ses côtés qui lui dit « mais si, il faut y aller ». Et puis il dit « de toute façon, c'est un volcan d'ambition, hein, autant au moins qu'il aille à fond dans cette direction ». Et donc il va à Lisbonne, il accepte. Et là, il prononce ce fameux discours lorsqu'il est investi ministre des Finances. « Je sais très bien ce que je veux et où je vais. Faites des observations, mais quand pour moi le temps sera venu de commander, vous obéirez ». Alors la salle applaudit, c'est merveilleux. Mais un dictateur en herbe, il faut toujours se méfier parce que ce qu'ils disent, en général, ils l'appliquent. On est en 1928 et plus personne ne pourra se débarrasser de Salazar jusqu'à son effacement en 1968.
Avec toujours ce questionnement du avant et du après la dictature. Le pendant de la dictature, ça c'est ce que vivent les Portugais et notamment José Palma, qui est alors riche propriétaire terrien, interrogé en 1969 sur c'était comment avant Salazar.
Vous avez connu la période d'avant M. Salazar?
Oui, je l'ai connu, on dit en portier, infligemente. Malheureusement.
Malheureusement.
Oui.
Comment c'était?
Le plus mauvais que vous pouvez vous imaginer. Toujours l'anarchie politique, dans la rue et dans les esprits, qu'il a fallu que l'armée portugaise sauve la nation. M. Salazar a été un sauveur pour Portugal. C'était un homme très énergique, très intelligent, et immédiatement, toute la nation, on peut dire, était avec lui. La jeunesse, la vieillesse et le Moyen-Âge.
C'était aussi un homme très autoritaire.
Comme il le fallait.
Depuis 40 ans, le Portugal a évolué. Donc on pourrait penser que maintenant, le Portugal est mûr pour de nouveau pour un régime de parti politique.
Non, ce n'est pas une question de maturité. C'est une question de raison. Le parti politique serait un grand mal pour le pays. Nous aurions, une autre fois, le désordre permanent.
le mot est tombé, sauveur. C'est ça, hein, le mythe du sauveur.
Oui, il va l'utiliser pleinement. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où, ça a été rappelé dans l'interview, il y a beaucoup d'instabilité politique et surtout, en toile de fond, la banqueroute financière qui menace. C'est un problème structurel hein, de l'économie portugaise à l'époque, depuis la monarchie, la fin de la monarchie, mais qui s'est renforcé. Les militaires se révèlent tout à fait incapables de juguler cette crise et de trouver des solutions. C'est pour ça qu'ils font appel à ce technicien des finances hors pair, que tout le monde reconnaît comme quelqu'un d'éminent. Et lui, il a des idées. Il a des idées assez précises, relativement classique, mais surtout, il va jouer une partition qui lui permet assez vite d'utiliser ce registre qui est celui du sauveur. La mythologie du sauveur au Portugal est importante parce qu'elle puise ses racines dans une histoire longue qu'on qualifie au Portugal le sébastianisme. Le sébastianisme, c'est l'idée, le roi Sébastien au XVIe siècle, qui est parti en 1578 guerroyer au Maroc et qui a disparu dans un combat resté célèbre, la bataille des Trois Rois. Et là, il y a une légende qui court que ce roi Sébastien, il reviendra un jour pour sauver son pays. Alors, il reviendra jamais. Mais la légende va s'installer et elle va perdurer tout au long du XIXe et au XXe siècle. Il y a toujours cette dimension que le Portugal va renaître de ses cendres. On est dans cette logique d'un redémarrage, d'une reprise, d'un retrouver la grandeur ancestrale du Portugal, celle du XVIe siècle, de l'expansion maritime. Eh bien, Salazar, sans trop le dire, comme toujours, va utiliser ce registre et surtout incarner un type de sauveur particulier, un technicien. C'est, dit-on à l'époque, le magicien des finances. Parce qu'en un peu plus d'un an, eh bien, il rétablit l'équilibre des comptes publics et restaure la confiance dans la monnaie portugaise, l'escudo. Et ça, les observateurs portugais et étrangers se disent « mais ce type, il est formidable, il est extraordinaire ». Bon, il a appliqué des recettes relativement courantes. Un point carré en France, à l'époque, applique à peu près les mêmes. C'est-à-dire, on contracte la dépense publique. C'est lui qui va tout contrôler. Il dit, moi, j'ai un droit de regard sur toutes les dépenses. On augmente la pression fiscale, quelques recettes fiscales. On crée un impôt particulier. Puis, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que sous la monarchie constitutionnelle et la République, il y a une grande porosité, on va dire, dans la perception de la recette fiscale. On va dire, il y a de la corruption, il y a des détournements. Et donc, il va renforcer les corps d'inspection des finances et de la Cour des comptes pour faire en sorte, et d'ailleurs, son chef de cabinet, son directeur de cabinet, va être promu assez rapidement, doublonner son poste, en quelque sorte, comme inspecteur général des finances et chef de l'inspection des finances. C'est cette ossature-là qui va lui conférer une dimension, oui, le sauveur des finances, sur laquelle, évidemment, il va beaucoup ensuite construire un narratif, comme on dit, avec la propagande qui va se mettre dans cette logique. Mais c'est le sauveur, celui qui rétablit les comptes publics, la confiance et une forme de stabilité. Et surtout pour les militaires, c'est très important, l'ordre.
Mais l'ordre, hein, ça c'est vraiment le mot qui peut drainer l'ensemble de cette émission avec ce destin d'un ministre des Finances qui accède peu à peu au pouvoir. Mais il y en a eu d'autres, Yves Léonard. La dictature ici apparaît quand? À partir de quel moment peut-on dire que Salazar devient le dictateur au Portugal?
Alors d'abord, ses admirateurs, ils sont nombreux, diront toujours, c'est pas un dictateur. C'est, ou alors un dictateur de lui-même. Pour signifier qu'il s'impose une discipline de fer, mais que c'est un homme d'une grande bienveillance et fort sympathique. La dictature, au départ, il est le sauveur des finances. Le véritable dictateur, aux yeux de l'opinion, c'est le général Carmona, le chef de l'État, qui restera d'ailleurs le président de la République. Il ne va pas renverser la République, il va l'adapter. Et entre 1932, il devient président du Conseil. Ça, c'est une étape très importante pour lui parce que ça signifie qu'il a fait la conquête d'une partie de la haute hiérarchie militaire, qui voit en lui l'homme incontournable. Il a tout fait pour se rendre incontournable et il a beaucoup réseauté pendant ces années-là, les quatre années depuis qu'il est ministre des Finances. Mais à partir de 1932, il est le président du Conseil. Et il a annoncé qu'il va mettre en place une constitution. Il va élaborer avec ses amis de l'université de droit, de la faculté de droit de Coimbra, ils vont rédiger une constitution qui sera la constitution de l'Estado Novo, qui sera adoptée en mars 1933. Et là, petit à petit, la fiction qui était maintenue, c'est-à-dire un dictateur deux hommes, Carmona et cette espèce de diarchie, le chef de l'État et le président du Conseil, petit à petit, les gens se rendent bien compte que le Portugal a un chef, et c'est très important dans la rhétorique des années 30, avoir un chef, charismatique, ou supposé tel, il ne l'est pas, mais on va le voir, c'est Salazar. Et le Portugal a son chef à partir des années 1933-1934, et ça ne va cesser de se renforcer pour ensuite cornériser de plus en plus la haute hiérarchie militaire, le chef de l'État, le général Carmona. C'est lui qui incarne, c'est lui le chef du Portugal, et d'ailleurs, après, toute la propagande va orchestrer une mise en image, une mise en scène tout à fait étonnante autour de lui, qui s'y livre avec beaucoup de réticence au départ, parce que c'est pas, je pense, dans sa nature profonde, mais il utilise ses registres et il veut incarner un peu ce sauveur providentiel, un peu masqué, mais omnipotent, qui voit tout, qui sait tout, qui travaille pour le bien de la nation et qui va s'imposer comme à la référence, et y compris à l'étranger.
Il est président du Conseil, il serait Premier ministre, on dirait, pour simplifier les choses. Ce n'est pas lui le président de la République, enfin, c'est Carmona. La République est toujours maintenue dans cette histoire-là.
Formellement, le cadre républicain n'est pas... Alors, il y a eu de grandes discussions, certainement, Salazar, et d'ailleurs en 1919, après la fin de la Première Guerre mondiale, il avait été inquiété à Coimbra comme étant suspecté d'être monarchiste. Alors il s'en était défendu et il va finalement sur la question de la monarchie, une restauration donc de la monarchie, rester extrêmement prudent pour de nombreuses raisons, même si, dit-on, et Serge Geyla l'avait raconté plus tard, le souhait de Salazar aurait été d'être finalement le premier ministre omnipotent d'un monarque absolu. Et bon, c'est pas ce qui se passera dans la réalité. Il va regarder la question monarchique avec beaucoup de prudence. En 1932, l'un des potentiels héritiers, enfin celui qui avait été roi, le dernier roi du Portugal, Dom Manuel, qui était parti en exil en 1910, meurt en Angleterre, là où il s'était réfugié, en juillet 1932. Et Salazar restera toujours très prudent sur cette question. Le cadre républicain, pourquoi pas? Dès lors que c'est une république très particulière, très personnalisée, autour finalement de sa personne, qui est la clé de voûte des institutions, même si, formellement, le chef de l'État, le président Carmona au début, détient un pouvoir qui peut être dangereux pour Salazar, et la suite va le prouver. Il a la capacité, il est le seul à pouvoir nommer et révoquer le président du Conseil. Et donc, il doit évidemment composer avec ce personnage. Mais c'est véritablement lui, oui, qui s'impose comme la figure de référence.
Et nous connaissons la suite, bien sûr, vous venez de le dire, Yves Léonard, la suite nous le dira, mais si on se place au tout début des années 1930, observateur international sur ce qui se passe au Portugal, en comparaison avec l'Italie et l'Allemagne, c'est un autre registre complètement. Est-ce que, déjà, il y a le sentiment que, ici, quelque chose au Portugal est en train de devenir ce que l'on pourrait appeler une dictature?
Alors, la dictature, la constitution de l'État de Novo est une constitution très particulière parce que elle est rédigée par des juristes, donc elle est assez habile, mais elle rend l'exercice des libertés publiques impossible. Elle organise un système d'élection qu'on va qualifier sans choix, même si formellement, pour l'élection présidentielle, candidat de l'opposition, entre guillemets, pourra se présenter. La suite le montrera. Mais tout est fait de telle sorte que le débat public soit réduit à sa plus simple expression. La censure est omniprésente. Elle est orchestrée par et mise aux mains du secrétaire à la propagande nationale, d'un homme comme Antonio Ferro. Tous ces gens-là contrôlent tout ce qui se dit et empêchent de diffuser une information fiable, un débat d'idées. Bref, il n'y a plus de vie publique et Salazar d'ailleurs considère que voilà, il faut mettre fin à ce qu'il considère comme l'odieux 19e siècle et l'odieux libéralisme politique qui a fait finalement qui a évolué vers ce parlementarisme dévoyé à ses yeux de la Première République. Donc il faut mettre fin à tout ça. Alors il emprunte des traits aussi, parce qu'on est dans les années 1930 et le champ magnétique des fascismes va séduire une partie du régime. Lui-même n'est pas... il considère que c'est un césarisme païen, comme il dit, à l'égard de ce qui se passe notamment en Allemagne. Il regarde Mussolini, même s'il a sa photo qui a souvent été montrée sur son bureau de Mussolini, mais il a un regard assez distant vis-à-vis de Mussolini. À partir de 1934, il ne se met pas dans la dynamique d'une internationale fasciste, congrès de Montreux en quelque sorte. Il reste un peu en marge. Non, ce qu'il veut incarner, et d'ailleurs ce qu'il va d'une certaine manière réussir à faire, c'est une forme de troisième voie, hein, une forme de troisième voie qui ne serait pas le fascisme type et qui ne serait évidemment pas le libéralisme politique tant honni, tant décrié. C'est quelque chose, un régime autoritaire, extrêmement dur, implacable, qui l'orchestre, mais en prenant soin, comme il le dit souvent, de faire vivre le Portugal habituellement. Autrement dit, c'est un mot qu'il délivre à Henri Massy en 1938, mais qui va être beaucoup repris ensuite, c'est-à-dire de faire vivre les Portugais pour qu'ils ne se mobilisent pas politiquement, qu'ils ne se soucient pas de la chose publique, autrement dit, qu'ils respectent l'ordre immuable des choses. Faire en sorte que rien ne change. C'est le mot d'ordre du régime. Et ça, c'est quand même assez différent des régimes fascistes type. La notion de mouvement, de révolution, de vitesse, d'homme nouveau, toutes ces choses-là, dans le Portugal salazariste des années 1930, ce sont des choses assez diffuses. Mais la répression est implacable et il ne s'agit pas de s'opposer, de contester la parole du maître.
Avec ces libertés confisquées, vous l'avez rappelé, Yves Léonard, aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous réfléchissons à l'itinéraire d'un dictateur, Salazar, au Portugal, afin de comprendre comment, le 25 avril 1974, nous en arrivons à la révolution des œillets.
Tem movimentos de gata na canastra, a caravela no coração, a fragata na canastra, a caravela no coração, a fragata. Em vez de corvos no chão, gaivotas vêm em pousar. Quando o vento a leva ao mar, tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sono e maresia, tempestades apregoa seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa.
Maria Lisboa, Amalia Rodriguez, bien sûr, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Anna Holbeck et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Dites-nous, Yves Léonard, le salazarisme, et on entend ici Amalia Rodriguez qui continue, enfin qui chante pendant la période, il y a cette vie au Portugal, culturelle, comme une évidence. Mais moi j'ai bien retenu ce que vous avez dit, c'est cet immobilisme politique. En fait, j'ai l'impression que du moment où, à partir des années 1930, Salazar arrive là, il n'y a plus de vie politique, ou en tout cas si elle existe, elle est complètement fantoche.
Oui, elle est limitée, très limitée, c'est la volonté de Salazar. Il faut faire en sorte que les gens n'aient pas à s'impliquer dans le débat public, éviter de mobiliser les masses, qui est un des grands enjeux de l'époque. Il crée un parti unique, qui est un parti de notables, qui est là pour organiser des élections sans choix, et désigner, plutôt coopter en quelque sorte, des députés à l'Assemblée nationale, et puis à la Chambre corporative. Donc c'est un système qui est extrêmement verrouillé, qui est construit par et pour les élites. C'est un système très élitiste. C'est ça la marque de fabrique du régime salazariste. Lui-même est un universitaire. Il s'adresse prioritairement à des gens lettrés, à des gens cultivés, tout en considérant que le peuple, eh bien, doit comprendre que c'est un homme sage, qui a des connaissances et qu'il doit, on lui doit le respect. Et ce respect, évidemment, est fortement teinté aussi de peur, parce que la peur, eh bien, il l'instille à travers un certain nombre de structures qu'il a mis en place, la police politique, les tribunaux spéciaux, une justice politique. Mais c'est ça qui va permettre au régime d'éviter de se poser ou d'essayer de prendre toujours des pas de côté vis-à-vis des grandes questions du temps, de l'époque, et de figer en quelque sorte le Portugal dans un registre, le Portugal des horloges arrêtées, un Portugal immuable. Et surtout, utiliser évidemment un levier qui va avoir beaucoup d'importance pour toute la suite, la question du récit national, en magnifiant le Portugal comme une grande puissance. Le Portugal n'est pas un petit pays, dit la propagande dans les années 1930, parce que derrière, il y a les colonies. Et ça, Salazar va utiliser beaucoup cette carte, ce registre, pour dire, voilà, nous allons rétablir la grandeur d'antan. Et par ce narratif, ce récit national qu'il va marteler, que la propagande va marteler, c'est une sorte de compensation, d'espace compensatoire qui est offert en disant, mais voilà, vous avez à rêver parce que la mer est là, que l'océan nous guide comme l'océan nous a toujours guidés depuis l'infant Henri, dit-il. Et la propagande en fait beaucoup sur ce registre-là dans les années 1930, au moment même où voilà, l'Europe va être en guerre et le Portugal va rester neutre et va célébrer en 1940 l'exposition du monde portugais, ses centenaires, la nationalité 1140, la restauration de l'indépendance vis-à-vis de la Castille, de l'Espagne 1640. C'est ça aussi que le régime essaye de mettre en place comme une espèce de substitut à l'absence de débat public.
Avec ce récit historique revisité, puis la religion, on l'a bien compris, c'est important, Yves Léonard. Combo des deux, en 1950, le journaliste, homme de radio, Samy Simon, fait un petit tour au Portugal.
Pendant mon séjour à Lisbonne, une messe fut célébrée dans la chapelle du célèbre couvent de Jeronimos pour le repos de l'âme de Dom Henrique, mort voici plus de 500 ans. Et depuis 500 ans, malgré les guerres, les révolutions, les changements de régime, cette messe a été célébrée régulièrement, sans une seule année d'interruption. Curieuse figure que celle de cet Henri le Navigateur, ce découvreur de monde dont l'écusson sort d'un glaive nu et de cette devise « talent de bien faire ». Qui était-il, cet homme extraordinaire, qui, âgé de 24 ans à peine, quittait la cour brillante de son père et venait s'installer face à l'océan, au pied de ces hautes falaises rongées des eaux et des vents, entraînant à sa suite une armée de mathématiciens, d'astronomes, de cartographes, d'armateurs, de chevaliers, d'aventuriers, et avec eux bâtissait une ville, ouvrait un port, un chantier maritime, fondait une école de navigation, et chaque année pendant 15 ans lançait à l'assaut des océans ses rapides caravelles à trois mâts et à voile latine, emportant dans leurs flancs ces fiers conquistadors qui devaient conquérir le monde.
L'évocation d'Henri le Navigateur, ce n'est pas insignifiant dans cette histoire consacrée à Salazar.
Oui, l'infant Henri est certainement dans les grandes figures historiques de ce narratif que le régime écrit, et certainement l'une des figures de proue, d'ailleurs au propre et au figuré. C'est un homme qui compte beaucoup parce que c'est un homme légendaire. La réalité historique est beaucoup plus complexe, le concernant est beaucoup plus ambivalente, mais à l'époque, ce qu'on dit de lui, c'est qu'effectivement, c'est l'homme qui a lancé le Portugal à l'assaut de la mer ténébreuse. C'est celui qui a permis l'expansion maritime. Et c'est celui dont le régime va se réclamer au début. Et vous avez en 1932 une affiche dans un journal, un grand journal, le Diário Noticias, qui montre que par des glissements successifs, le visage de Salazar apparaît sous les traits de l'infant Henri. Et le chef de la propagande dit, mais si un ministre des Finances, si un technicien des Finances revenait de nos jours, si un enfant Henri revenait de nos jours, il prendrait les traits d'un ministre des Finances. Donc, l'infant Henri, c'est effectivement la figure tutélaire un petit peu du régime. Et Salazar et le régime dit, de 1415, la prise de Ceuta au Maroc, qui marque le début de l'aventure, de l'expansion, jusqu'à Salazar, 1940-1960, il n'y a qu'une continuité. C'est la même aventure qui se perpétue et la même grandeur que nous incarnons. Dilapidant au passage, faisant évidemment, écartant au passage les Lumières, le XVIIIe siècle, et pire encore le XIXe siècle, et le temps présent, la Première République qui a tout perdu. Et là, Salazar se pose en restaurateur de la grandeur passée du Portugal et en continuateur d'une œuvre amorcée 5 siècles plus tôt. Et c'est pour ça qu'en 1940, on commémore les centenaires, qu'en 1960, on commémore le 5e centenaire de la mort de l'infant Henri, avec ce monument qui existe toujours à Lisbonne, le Monument des Découvertes, qui est reconstruit à ce moment-là, il l'avait été en 1940, et qui montre l'infant Henri qui salue le Tage, qui regarde et qui est à la tête de tous ces navigateurs prestigieux et de Saint-François-Xavier aussi, pour la dimension religieuse, la dimension civilisationnelle, missionnaire qui accompagne toute cette geste et dont le régime reprend, revendique l'héritage.
Mais il y a un paradoxe ici, parce que Salazar, vous nous l'avez bien dit, Yves Léonard n'est pas du tout un homme politique en uniforme ou à cheval. Les évocations du passé sont souvent un côté d'aventurier. Lui, c'est pas un aventurier. Et donc, il reprend à son compte cette longue histoire, mais presque apaisée. Il en fait une synthèse complètement fantasmée, là encore.
Oui, et d'autant plus que pour revenir à la figure de l'infant Henri, dit le navigateur, c'est le navigateur qui n'a pratiquement jamais navigué. Il est allé à Ceuta, mais le reste du temps, il a fait naviguer les autres. Il était sur son promontoire de Sacre, il faisait aussi le commerce des esclaves, il se livrait à beaucoup de choses. C'est un homme, il était à la tête de l'ordre du Christ, aussi un puissant ordre militaro-religieux. Et d'une certaine manière, cette image, elle est très adaptée à ce que souhaite mettre en place Salazar. Parce que, il le dit à plusieurs reprises, son nationalisme n'est pas expansionniste, son nationalisme se veut pacifique. Il s'agit de conserver l'existant, il ne s'agit pas de conquérir, il ne s'agit pas d'annexer, il s'agit de dire, nous avons toujours été là et nous le resterons. Et l'infant Henri, c'est celui qui nous a donné le cap, qui nous a indiqué le cap à suivre. Dit-il, d'une certaine manière, on ne fait que reprendre, poursuivre la route que nous a dressé, nous a dessiné l'infant Henri. Sauf que lui, Salazar, d'une certaine manière, un peu comme l'infant Henri, mais pire que lui, c'est pas du tout un homme de la mer. C'est un homme de la province intérieure, des Beiras. C'est un nationalisme tellurique. C'est le nationalisme, d'une certaine manière, qui puise ses racines chez un Barès, qu'il admire beaucoup, de la terre et des morts. C'est pas du tout ce regard vers l'aventure. Mais pour lui, c'est la seule manière, quand il va faire ce narratif, créer ce récit national, c'est le seul moyen de créer une dynamique, un élan collectif, de faire nation, comme on dit aujourd'hui, autour de cette idée que le Portugal ne peut être grand, ne peut être que lui-même, que si il est présent outre-mer. Puis accessoirement, c'est bien aussi les colonies, parce que ça permet d'envoyer un certain nombre de hauts gradés, de militaires, avec des responsabilités, les éloigner aussi de Lisbonne. Et bon, on sait jamais, des coups d'état de caserne, il va réduire un peu la voilure aussi, le nombre d'officiers, tout ça, parce que c'est toujours dangereux. Mais ça, c'est la question annexe. Et puis aussi quelques personnes dont on ne veut vraiment pas en métropole, qu'on exfiltre là-bas. C'est aussi l'effet collatéral un peu de cette dynamique. Mais le récit national salazariste, c'est véritablement se donner un nouvel horizon. Et cet horizon, il n'est pas véritablement européen, parce que voilà, l'exiguïté du territoire européen, il s'inscrit dans cet grand narratif qui puise ses racines de longue date. Un récit providentialiste, c'est à la Providence que Salazar doit être sur place, c'est à la Providence que le Portugal doit son aura, son prestige, sa grandeur. Le monde, le Portugal qui a donné de nouveaux mondes au monde, disait Camoens dans les Lusiades, c'est toute cette tradition que Salazar va reprendre à son compte, la porter à son incandescence, et jusqu'à sa chute, jusqu'à sa perte.
Avec ici, et on le comprend très bien en vous écoutant Yves Léonard, pas de comparaison possible avec le fascisme, au sens l'Italie qui est conquérante, Mussolini, le nazisme évidemment on le met de côté. Qu'en est-il de ce qui se passe au même moment en Espagne?
À la frontière hispano-portugaise, une rencontre a réuni le président Salazar, chef du gouvernement portugais, et le général Franco. Cette entrevue des deux chefs d'État semble avoir eu pour thème l'ajustement de la politique économique de leurs deux pays devant la mise sur pied du marché européen plutôt que, comme on l'avait suggéré, le rétablissement de la monarchie en Espagne et au Portugal.
Le journal des actualités françaises en 1957, par président Salazar, bien entendu, il faut entendre président du Conseil. Mais c'est pratique, hein, parce que ça joue un petit peu sur la confusion. Yves Léonard, alors d'un côté, en Espagne, bien sûr, c'est très militaire. Au Portugal, ça ne l'est pas. Comment ça se passe, cette rencontre particulièrement, mais surtout ce regard du Portugal sur l'Espagne, de l'Espagne sur le Portugal ?
Bah d'abord, ce regard renvoie à une longue histoire. Le Portugal a toujours regardé avec beaucoup de méfiance son puissant voisin. Un célèbre adage dit « De Castille ne vient ni bon vin ni bon mariage ». D'Espagne ne vient ni bon vent ni bon mariage. Et il y a toujours ce regard dans les années 30 très méfiant, parce que la République, telle qu'elle se met en place en Espagne en 1931, elle attire beaucoup de suspicions dans le regard de Salazar. Et pire encore, le Front Populaire en 1936, il y a toujours la question de l'ibérisme qui est en toile de fond. C'est-à-dire, l'ibérisme, c'est cette idée que le Portugal n'a pas de légitimité, en quelque sorte, à exister comme un État souverain. Et donc, toujours cette menace annexionniste d'union ibérique qui pourrait faire en sorte que le Portugal deviendrait une sorte de grande province ibérique de l'Espagne. Et ça, c'est très présent dans la pensée de Salazar. Et puis même Franco a fait un mémoire d'études, avait réfléchi à la question comment envahir le Portugal. Donc, quand la guerre civile survient, il a évidemment, Salazar, beaucoup de méfiance et aussi des affinités beaucoup plus prononcées à l'égard, évidemment, des troupes nationalistes, qu'il va aider dès l'été 1936, qui est crucial à l'époque, et se rapprocher des nationalistes, de Franco notamment, vis-à-vis duquel il va créer une relation de confiance entre les deux voisins ibériques, ce qui est, dans l'histoire longue portugaise, est un peu une singularité. Et il va se rapprocher de lui, lui donner un certain nombre de gages, et faire en sorte, c'est un des enjeux pendant la Seconde Guerre mondiale, que l'Espagne reste neutre le plus possible, non belligérante, mais une non-belligérance qui ne conduirait pas à des opérations militaires en péninsule ibérique. Parce qu'il sait, il a crainte que s'il y a des opérations en péninsule ibérique, eh bien, le Portugal a tout à y perdre. Souvenir de la participation à la Grande Guerre, aussi réduction de la contraction de la masse budgétaire consacrée aux militaires en 1937-38 par la réforme militaire. Bref, il se méfie beaucoup de cela et toute sa politique va être d'essayer d'arrimer une forme de neutralité et jouer un rôle assez actif, aux côtés des Anglais d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a le pacte ibérique qui a été signé en mars 1939, à la fin de la guerre civile, la première phase de la guerre civile, et Salazar essaye de sécuriser, de faire du bloc ibérique un glacis protecteur à ses portes. Ça, c'est important dans sa stratégie, c'est assez novateur, arrimé bien sûr à la vieille alliance britannique, qui est l'autre volet très important de sa politique étrangère. C'est ce qui va lui permettre d'éviter, de se rapprocher de Franco et d'éviter que la péninsule ibérique soit en guerre. Et les relations, il faut savoir que Salazar n'a jamais voyagé. Il n'est jamais pratiquement sorti de son pays. Il est venu en France en 1927, un peu à Madrid dans les années 1920. Mais les seules fois où il sort un tout petit peu, il quitte, il franchit la frontière, c'est pour rencontrer Franco. C'est pas très souvent. Ce sera le cas en 1942. Il va l'accueillir en 1949. Il y a 1957 qu'on vient d'évoquer. Mais c'est assez peu fréquent et c'est jamais très loin de la frontière. Séville, Ciudad Rodrigo, etc. Parce que faut pas aller trop loin quand on est un dictateur comme Salazar. Et ils s'apprécient tous les deux, mais je pense avec une asymétrie de regard. C'est-à-dire que Salazar considère toujours, comme vis-à-vis des militaires, qu'il a quand même un niveau supérieur, une intelligence bien supérieure à ses voisins ibériques.
Et dans le même temps, le Portugal bénéficie d'un soutien international.
C'était d'anciens ministres, d'anciens journalistes, d'anciens professeurs que leur refus de se rallier au régime avait ruiné. Ils avaient tous des parents et des amis déportés. Ils étaient pauvres et traqués. Ceux qui s'obstinaient encore à agir savaient que l'île d'enfer les guettait. Un médecin qui soignait gratuitement des miséreux, quiconque organisait un cours du soir, quiconque accomplissait un geste généreux ou simplement charitable, était un ennemi de l'Église et de l'État. Ils s'entêtaient pourtant, et ils voulaient croire que la ruine du nazisme entraînerait la fin de ce fascisme cagot. Ils rêvaient de renverser Salazar. Il se savait bien seul. Les capitalistes anglais avaient de gros intérêts au Portugal. Les Américains négociaient avec le gouvernement l'achat de bases aériennes aux Açores. « La France est notre seul espoir », répétait-il.
Nous étions en 1954, c'est Les Mandarins, l'ouvrage de Simone de Beauvoir, une lecture d'Anna Holweck dans le cours de l'histoire sur France Culture, Yves Léonard. Oui, soutien international, par contre, pour le gouvernement, le régime Salazar.
Oui, soutien international crucial en 1945, où tout aurait pu basculer. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que, à l'ère post-fasciste, à la fin de ces dictatures, eh bien, celle-ci soit engloutie, entraînée dans sa chute. Il n'en a rien été. parce que ni les Anglais ni les Américains ont considéré à ce moment-là qu'il fallait se séparer de Salazar, qui offrait des gages, qui avait donné des gages avec la question des Açores, notamment pendant la Seconde Guerre. Ça vient d'être rappelé, cette base stratégique qu'il avait négociée pied à pied avec les Britanniques d'abord, puis les Américains. Mais ça lui avait donné une espèce d'aura, de prestige et de donner des gages. Et il avait dit en 1945, en mai 1945, nous bénissons la paix, mais nous bénissons la victoire. Tout en ayant fait mettre en berne les drapeaux portugais à l'annonce de la mort d'Hitler. C'est toujours cette espèce d'ambiguïté, de double registre sur lequel il va beaucoup jouer. Mais en 1945, il passe le cap. Et pour lui, c'est important parce que il est farouchement anticommuniste et très vite, et même il l'a dit pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout éviter que les soviétiques, Moscou, impriment sa marque à l'échelle de l'Europe. Et là, avec évidemment le développement de la guerre froide, de la rivalité Est-Ouest, de cette lutte idéologique contre le bloc communiste, eh bien, il va mobiliser tous les instruments qui sont à sa disposition. La religion, avec Fatima, Pie XII, qui va être à la démarche, à l'unisson de cette dynamique. Et puis, bien sûr, le rapprochement et l'insertion au sein de l'Alliance Atlantique, qui va lui conférer une légitimité incroyable sur la scène internationale et surtout le démarquer de son voisin ibérique. Parce que Franco, à l'époque, est dans une phase où il faut redonner des gages. Et ça ne se fera qu'en 1953. Avec le traité avec les États-Unis et le Concordat. Mais Salazar, lui, est déjà, dès 1949, l'interlocuteur privilégié des Occidentaux en péninsule ibérique. Et ça, c'est quelque chose, c'est une revanche sur l'histoire en quelque sorte. Et pour lui, évidemment, c'est une manière de réasseoir, de reconfirmer sa légitimité.
Pour savoir si un régime ne tient qu'à l'homme qui est à sa tête, il suffit d'attendre qu'il meure. 1970, la mort de Salazar. Est-ce que le salazarisme disparaît? Parce que c'est toute la question. Est-ce que tout cela ne tenait que par lui?
Alors la suite a prouvé que oui, ça tenait beaucoup par lui. Et d'une certaine manière, sa mort politique en 1968 et sa mort physique en 1970 montrent que le salazarisme sans Salazar, ça ne marche pas. Et tout le problème de son successeur non désigné de son vivant, hein, et donc ça, pour sa légitimité évidemment, c'était compliqué, Marcelo Caetano, tout le problème de Caetano, l'un des problèmes de Caetano, ça va être de vouloir, entre guillemets, moderniser la dictature et d'institutionnaliser l'Estado Novo, le régime salazariste, sans Salazar. Ou du moins au début avec l'ombre portée de Salazar jusqu'à son décès en juillet 1970. Et ça, une dictature de cette nature, effectivement, la suite montrera qu'elle ne peut pas fonctionner sans la figure tutélaire, celui qui donnait le ton, qui donnait le cap, qui fixait le cap, et autour duquel, au moins jusqu'au début des années 1960, tout était structuré, organisé, sa parole était d'or, il était omnipotent. Ce qui sera moins le cas dans les années 1960, mais l'habitude avait été prise, et cet homme, Salazar, ça a été rappelé dans un des extraits, d'une grande autorité naturelle, implacable, avec ce regard glaçant, etc., inspirait la peur. Et les ultras du régime, après sa mort, voudront faire du Salazar sans Salazar. Sauf que il n'était plus là.
1968, c'est le moment, hein, sa mort politique, c'est là où il fait une attaque, la maladie, le ravage. Et 1970, c'est sa mort. On a commencé, Yves Léonard, cette émission en disant que ce qui lui a permis d'accéder au plus proche du pouvoir, ce sont ses talents sur la finance, en tout cas. Il a agi sur la finance. Le bilan de Salazar dans ces années 60, et c'est pas si joli que ça.
Alors le bilan, alors d'abord sur le plan des libertés publiques, c'est calamiteux. La police partout, la justice nulle part, comme on disait. Et surtout aussi sur le plan extérieur, prioriser le fait ultramarin, la politique ultramarine comme la pierre angulaire de sa diplomatie, qui va le mettre évidemment en porte-à-faux complet avec le vent de l'histoire, c'est-à-dire cette phase de décolonisation sur laquelle il y aura d'autres débats, une autre émission. Mais ça, c'est très important parce que c'est ce qui va évidemment fragiliser tout le système. Et puis, en termes évidemment sociétaux et économiques, c'est une société figée, une société patriarcale que Salazar refuse de voir évoluer, d'ailleurs qu'il ne voit pas évoluer. Et qui refuse parce que cette tertiarisation, cette urbanisation, cette massification qui peut en découler, et donc cette ingérence des masses dans la vie publique, c'est quelque chose qu'il redoute par-dessus tout. Il va tout faire pour retarder cette échéance. Et sur le plan économique, l'homme des comptes publics sévèrement tenu de l'austérité avant l'heure budgétaire et financière, Eh bien, dans les années 60, évidemment, ça va connaître un certain nombre d'écarts avec la montée en puissance des guerres coloniales qui vont budgéter, qui vont plomber les finances publiques et créer un certain nombre de distorsions. Et d'un homme qui n'était plus de son temps, autant dans les années 1920-1930, il avait épousé, voire anticipé un certain nombre d'évolutions sur la réforme de l'État, notamment, où il avait un certain nombre d'idées, et même certains chants du néolibéralisme à la fin des années 30 seront assez admiratifs. Hayek le sera par la suite de Salazar, voilà. Mais pour autant, Salazar est un homme du passé qui va avoir cette idée d'un colonialisme tardif et de dire aux Portugais, allez en Angola et Mozambique, vous installez, alors que les vents contraires soufflent, et au patronat, au grand patron, au grand conglomérat, investissez massivement. On est dans les années 1960. C'est manqué de discernement.
C'est manqué de discernement, en tout cas. Vous nous avez permis, Yves Léonard, d'avoir toutes les clés pour saisir l'histoire qui se construit. C'est celle de la révolution des œillets. Merci vivement à vous, Salazar, le dictateur énigmatique, c'est chez Perrin. Mais je rappelle aussi l'histoire de la nation portugaise chez Talandier, ou encore Sous les œillets, la révolution chez Sandaigne. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. Merci beaucoup.
Merci.
Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi ne faut-il pas confondre les libertés académiques et l'autonomie de la science ? Depuis une vingtaine d'années, les bouleversements profonds de notre espace public ont eu des répercussions importantes sur le milieu universitaire. Une illustration en a été donnée au début de l'année 2022 lors de la polémique sur l'islamo-gauchisme alimentée par la ministre chargée de l'enseignement supérieur. Cette intervention directe du pouvoir politique dans les activités professionnelles des universitaires a été condamnée par la majorité d'entre eux au nom des libertés que les démocraties accordent à celles et ceux qui ont pour mission de produire et de transmettre des connaissances. La défense de la liberté académique est un héritage de la philosophie des Lumières. Elle repose sur la conviction que la recherche de la vérité, sans aucune entrave ou contrainte, est la condition du progrès pour l'ensemble de la société. Ce qui exige que les savants soient protégés des menaces du pouvoir politique, mais aussi des pressions militantes. En France, ce principe démocratique a été inscrit, de manière fragmentaire, dans les lois sur l'enseignement supérieur depuis celle d'Edgar Faure en 1968. Mais la notion de liberté académique n'a été explicitement mentionnée que dans la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020. Elle énonce que, désormais, les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. L'usage du pluriel signifie que notre droit défend, d'une part, la liberté de recherche et d'enseignement pour chaque universitaire et, d'autre part, l'autonomie administrative des universités. Il faut néanmoins préciser que les enseignants-chercheurs ne bénéficient de cette liberté que dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles. Mais comme tous les autres citoyens, ils doivent s'abstenir de tenir des propos injurieux, diffamatoires ou racistes. De plus, en leur qualité de fonctionnaires d'État, ils doivent respecter les règles issues du droit de la fonction publique, comme le devoir de réserve, de neutralité, de discrétion professionnelle, etc. Tous ces termes donnent lieu aujourd'hui à des interprétations différentes, car les universitaires jouent un rôle beaucoup plus important qu'autrefois dans le débat public. La production de connaissances et la recherche de la vérité sont toujours des arguments essentiels qu'ils mettent en avant pour défendre leur liberté académique. Une partie d'entre eux, tout particulièrement en sciences sociales, récuse toutefois la notion d'objectivité de la science en affirmant que tout est politique. Mais si tout est politique, il semble légitime que le pouvoir politique intervienne dans les activités des universitaires. Voilà pourquoi on ne peut pas, à mon avis, défendre les libertés académiques si l'on ne défend pas, dans le même temps, l'autonomie de la science en expliquant ce qui différencie un discours savant et un discours politique. Pour avancer dans cette réflexion, il faudrait que les universitaires forment une véritable communauté savante pour s'accorder sur des critères partagés par tous, ce qui n'est malheureusement pas le cas.
Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copet, Tom Mundenstock, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.